Passé. Ma vie a atteint à la perfection 18 mois auparavant, le jour où Jack a dansé avec Millie près du kiosque à musique. Une partie de ce que j'ai raconté à Esther est vrai. J'avais repéré Jack le dimanche précédent, sans penser qu'il s'intéresserait à une fille comme moi. Et d'une, il était d'une beauté exceptionnelle, et à l'époque, je n'étais pas aussi jolie qu'aujourd'hui. Et de deux, il y avait Millie. J'en avais parfois parlé dès le départ aux hommes avec lesquels je sortais, et quand ils me plaisaient beaucoup, leur avais précisé que j'avais une sœur cadette en pension dans une école. Mais je ne révélais sa trisomie qu'après plusieurs semaines de liaison. Confrontés à la réalité, certains n'avaient su que dire et ne s'étaient pas attardés pour tenter de dire quoi que ce soit. D'autres avaient exprimé de la curiosité, voire de la compassion, jusqu'à ce qu'il fasse sa connaissance et se montre incapable d'apprécier sa spontanéité à sa juste valeur, contrairement à Jack. Deux de mes amants les plus dignes n'avaient pas déserté tout de suite, mais même eux avaient eu du mal à accepter la place énorme que Millie occupait dans mon existence. L'écueil était toujours le même. J'avais fait une promesse à Millie. Sitôt qu'il lui faudrait quitter son établissement, formidable mais extrêmement onéreux, elle viendrait s'installer chez moi. Je n'avais aucune intention de trahir ma parole. Résultat, 6 mois plus tôt, j'avais dû me résoudre à ma rupture avec Alex, qui partageait mon bonheur depuis 2 ans déjà, et avec lequel j'avais cru pouvoir vivre le restant de mes jours. Mais les 16 ans de Millie et l'imminence de son arrivée avaient commencé à lui peser. Voilà pourquoi, à 32 ans, je m'étais une nouvelle fois retrouvée célibataire et nourrissais de sérieux doutes quant à la possibilité de rencontrer quelqu'un qui nous accepte toutes les deux. Ce jour-là, au parc, je n'ai pas été la seule à remarquer Jack, même si j'ai sûrement été la plus discrète. Certaines femmes, les plus jeunes, lui ont souri sans vergogne pour tenter d'attirer son attention, tandis que des adolescentes rigolaient derrière leurs mains tout en se chuchotant qu'il devait être une star de cinéma. Les femmes plus mûres l'ont contemplé d'un air appréciateur avant, généralement, de toiser l'homme qui les accompagnait comme s'il laissait à désirer. Même les représentants du sexe masculin l'ont regardé, tant l'élégance décontractée qu'il dégageait était difficile à ignorer. La seule à être restée indifférente a été Millie. Absorbée par notre partie de cartes, elle ne pensait qu'à gagner. Comme souvent à la fin du mois d'août, nous pique-niquions sur l'herbe non loin du kiosque. Du coin de l'œil, j'ai vu Jack s'approcher d'un banc voisin. Lorsqu'il a tiré un livre de sa poche, je me suis de nouveau concentrée sur Millie, bien décidée à ce qu'il ne s'aperçoive pas que je l'avais repérée. Pendant qu'elle redistribuait, je me suis dit qu'il était certainement étranger, italien peut-être, et qu'il passait le week-end à Londres avec femme et enfants, lesquels étaient en train de visiter un monument ou un musée quelconque et le rejoindraient plus tard. Pour autant que je sache, sur le moment, il ne m'a même pas calculé. Impassible malgré les cris sonores de Millie chaque fois qu'il y avait bataille. D'ailleurs, nous sommes partis peu après, car il fallait qu'elle soit rentrée à 18 h pour dîner à 19. Bien que persuadée que je ne le recroiserais jamais, je n'ai cessé de repenser à lui. Je me suis surprise à l'imaginer célibataire, lui aussi. Je ne l'avais pas laissé de marbre, il s'était épris de moi, il avait décidé de revenir au parc le dimanche suivant dans l'espoir de me revoir. Je n'avais pas autant fantasmé sur un homme depuis mon adolescence. J'ai alors pris conscience que je désespérais vraiment de me marier et de fonder un foyer. Malgré mon dévouement pour Millie, j'avais toujours cru que, quand elle emménagerait avec moi, j'aurais déjà des enfants, et qu'elle deviendrait un membre supplémentaire de ma famille au lieu d'être mon unique famille. Je l'aimais de tout mon cœur, mais la perspective de vieillir seule avec elle me terrifiait. La semaine d'après, je n'ai vu Jack qu'à l'instant où il a abordé Millie qui dansait devant le kiosque avec son cavalier imaginaire. Dans ces moments-là, j'avais du mal à gérer les émotions qu'elle provoquait en moi. Tout en étant très fière qu'elle maîtrise les pas qu'on lui avait appris, j'étais également protectrice, et lorsque j'ai entendu des rires dans mon dos, je me suis obligée à me répéter qu'ils étaient certainement bienveillants, et, dans le cas inverse, qu'ils n'affecteraient pas le plaisir que ma sœur éprouvait. Cependant, l'envie de me lever pour la ramener à sa chaise a été si forte que je me suis détestée de la ressentir. Pour la première fois, j'ai regretté que Millie ne soit pas normale. Des instantanés ont défilé dans ma tête de ce qu'aurait été alors nos vies, la mienne. Et je ravalais des larmes de frustration quand Jack a marché vers elle. D'abord, je ne l'ai pas reconnue, et j'ai cru qu'il comptait lui demander de se rasseoir. J'ai bondi, prête à intervenir, Puis il s'est incliné devant elle et lui a tendu la main. C'est là que je me suis rendu compte qu'il était celui qui avait nourri mes rêves durant toute la semaine. Deux valses plus tard, alors qu'il reconduisait Milly à sa place, j'étais tombée éperdument amoureuse de lui. « Vous permettez ? » a-t-il demandé en désignant le siège voisin du mien. « Je vous en prie, » ai-je acquiescé avec un sourire de gratitude. « Merci d'avoir dansé avec Milly. C'était très courageux de votre part. » « Tout le plaisir a été pour moi. Elle danse très bien. »« Gentil monsieur, » est intervenu l'intéressé, Béate. « Jack. »«
Gentil Jack. »
« Permettez-moi de me présenter dans les règles, » a-t-il enchaîné en me tendant la main. « Jack Angel. »«
Grace Harrington. Milly est ma sœur. Vous êtes ici en vacances ?»«
Non. J'y vis. » J'attendais qu'il précise avec sa femme et ses enfants, mais il s'est abstenu. D'un regard en coin, j'ai constaté qu'il ne portait pas d'alliance. J'en ai été tellement soulagée que je me suis morigénée intérieurement. Ça ne signifie rien.
Et vous? Vous et Milly êtes en visite à Londres?
Pas vraiment, non. Je viens de Wimbledon, mais j'amène souvent Milly ici le dimanche.
Elle habite avec vous?
Non, elle est pensionnaire. Je m'efforce de lui rendre visite le week-end, mais comme je voyage beaucoup pour mon travail, ce n'est pas toujours possible. Par chance, elle a une super auxiliaire de vie qui prend le relais quand je suis indisponible. Et puis, il y a nos parents, bien sûr.
Votre boulot a l'air passionnant. De quoi s'agit-il, sans être indiscret?
J'achète des fruits.
Il m'a dévisagé avec perplexité.
Pour Harrods, ai-je précisé.
Et les déplacements?
Nos fournisseurs sont en Argentine et au Chili.
Ça doit être intéressant.
Ça l'est. Et vous?
Je suis avocat.
Lassée par notre conversation, Milly m'a tiré par la manche.
J'ai soif, Grace. Une gasse aussi. Chaud.
Je me suis excusée d'un sourire auprès de Jack.
Je crains que nous devions y aller. Merci encore d'avoir dansé avec Milly.
Et si vous me laissiez vous inviter toutes les deux pour le thé?
Se penchant pour que Milly le voie, il s'est adressé à elle.
Qu'en penses-tu, Milly? Tu es d'accord pour venir prendre le thé?
Jus,
a-t-elle répondu en le couvant d'un regard admiratif.
Jus, pas thé. « J'aime pas. »«
Va pour du jus dans ce cas, »
a-t-il acquiescé en se levant.
« On y va ?»«
Franchement, non. Vous avez déjà été trop aimable. »«
Ça me ferait plaisir. Tu aimes les gâteaux, Milly ?»«
Oui, oui, »
a-t-elle opiné avec vigueur.
« Alors, c'est décidé. »
Nous avons traversé le parc jusqu'au restaurant. Milly à mon bras, Jack à côté de nous. Lorsque nous nous sommes séparés une heure plus tard, j'avais accepté de dîner avec lui le jeudi suivant. Il n'a pas tardé à devenir un élément récurrent de mon existence. Il était facile à aimer. Il avait un côté un peu vieillot que je trouvais rafraîchissant. Il m'ouvrait les portes, m'aidait à enfiler mon manteau et me faisait porter des fleurs. En sa présence, j'avais l'impression d'être unique, appréciée. Mais, par-dessus tout, il adorait Milly. Notre relation durait depuis environ 3 mois quand il m'a demandé de le présenter à mes parents. Ça m'a déconcertée vu que je lui avais avoué que je n'étais pas très proche d'eux. J'ai menti à Esther à leur sujet. Ils n'avaient nullement désiré d'autres enfants et surtout pas Milly, quand sa naissance avait révélé son handicap. Petite, je les avais tant harcelés pour qu'ils me donnent un frère ou une sœur que, un jour, ils m'avaient prise entre 4 yeux et confié sans trop de ménagement qu'ils auraient préféré ne pas fonder de famille du tout. Voilà pourquoi ma mère avait été horrifiée 10 ans plus tard en découvrant qu'elle était enceinte. Je n'avais appris la nouvelle qu'en l'entendant discuter avec mon père des risques d'un avortement tardif. Qu'ils envisagent de se débarrasser du petit frère ou de la petite sœur dont je rêvais depuis toujours m'avait ulcérée. Nous nous étions disputés. Ils avançaient qu'une grossesse à 46 ans était risquée. Je leur opposais qu'un avortement était illégal, vu qu'elle était au 5e mois. J'ajoutais que c'était un péché, puisqu'ils étaient tous les deux catholiques. Épaulée de Dieu et de la culpabilité, j'avais emporté le morceau, et, de mauvaise grâce, ma mère était allée à terme. La découverte de la trisomie, ainsi que d'autres problèmes, les avait amenés à rejeter Milly. Ça m'échappait totalement. J'étais tombée amoureuse d'elle à l'instant où je l'avais vue. Elle était comme n'importe quel bébé à mes yeux. Aussi,
Quand ma mère avait sombré dans une grave dépression, c'était moi qui m'étais chargée de Milly, la nourrissant et la changeant avant de partir pour le lycée et revenant à l'heure du déjeuner pour recommencer. Lorsqu'elle avait eu 3 mois, il m'avait annoncé qu'il comptait la faire adopter avant d'émigrer en Nouvelle-Zélande où vivaient mes grands-parents maternels, un projet qu'il n'avait jamais caché. J'avais piqué une crise mémorable, avait objecté qu'il ne pouvait pas s'en débarrasser comme ça, avait proposé de rester à la maison pour m'en charger au lieu d'aller à la fac. En vain. La paperasse était en cours quand j'avais fait une overdose. C'était un geste idiot. Une tentative infantile de les convaincre que je ne plaisantais pas. Étonnamment, j'étais parvenue à mes fins. Comme j'avais 18 ans, les autorités avaient accepté que je devienne la responsable légale de Milly et que je l'élève, mes parents nous fournissant une aide financière. J'y étais allée pas à pas. Une fois trouvée une place en crèche, je m'étais mise à travailler à temps partiel. J'avais décroché mon premier poste dans le rayon fruits et légumes d'une chaîne de supermarchés. À 11 ans, Milly s'était vue proposer une place dans une école que je considérais aussi minable qu'un asile. Consternée, j'avais décidé de lui dégoter un endroit plus approprié. J'avais passé des heures infinies à lui apprendre à acquérir une autonomie dont j'estimais que personne d'autre ne se donnerait la peine de la lui enseigner. Pour moi, c'était ses difficultés de langage plus que son intelligence qui constituaient un obstacle à son intégration sociale, dans la limite de ses possibilités, s'entend. Trouver une école ordinaire qu'il accepte avait été un long combat. Si j'y étais parvenue, ce n'était que grâce à la directrice de l'établissement que j'avais enfin dénichée, une progressiste à l'esprit ouvert qui avait elle-même un frère trisomique. Son pensionnat privé pour filles était idéal, mais cher. Mes parents n'ayant pas ces moyens, je m'étais engagée à me substituer à eux en la matière. J'avais envoyé mon CV à plusieurs entreprises, accompagnée d'une lettre expliquant pourquoi j'avais besoin d'un emploi bien rémunéré. Harrods avait fini par m'embaucher. Lorsque ma fonction avait commencé à impliquer des déplacements, une occasion que j'avais saisie parce qu'elle était synonyme de liberté, mes parents s'étaient jugés incapables de recevoir Milly chez eux le week-end sans moi. Ils avaient cependant accepté de lui rendre visite en pension, et Janice, son auxiliaire de vie, veillait sur elle le reste du temps. Puis un nouveau problème avait émergé, menace sur la ligne d'horizon. Où Milly échouerait-elle une fois terminée l'école? J'avais promis à mes parents de la prendre, de façon à ce qu'ils puissent enfin déménager en Nouvelle-Zélande. Dès lors, ils avaient compté les jours. Je ne leur reprochais rien. À leur manière, ils nous aimaient, Milly et moi. Simplement, ils étaient en effet de ces gens qui auraient mieux fait de ne pas avoir d'enfants. Jack se montrant inflexible quant à son désir de les connaître, j'ai appelé ma mère pour lui demander si nous pouvions venir les voir le dimanche d'après. C'était fin novembre. Nous avons emmené Milly. S'ils ne se sont pas jetés à notre cou, j'ai vu que ma mère était impressionnée par les manières impeccables de Jack, et que mon père était content qu'il s'intéresse à sa collection de premières éditions. Nous les avons quittés peu après le déjeuner, et le temps de déposer Milly, l'après-midi touchait à sa fin. J'avais eu l'intention de rentrer chez moi, car j'avais 2 journées chargées avant de m'envoler pour l'Argentine. Mais quand Jack a proposé une promenade dans Regent's Park, j'ai accepté avec empressement, bien qu'il fasse déjà nuit. Je n'avais guère envie de repartir en voyage. Depuis ma rencontre avec Jack, le nombre important de déplacements qu'impliquait mon travail me pesait, et j'avais l'impression que nous n'avions que très peu de temps à nous. Or, lorsque c'était le cas, nous étions souvent avec des amis ou Milly. « Qu'as-tu pensé de mes parents ? » ai-je demandé au bout d'une dizaine de minutes de balade. « Ils ont été parfaits. » L'adjectif m'a fait froncer les sourcils. « Comment ça ? » ?»« Disons juste qu'ils ont été exactement comme j'espérais qu'ils seraient. » Je lui ai jeté un coup d'œil interrogateur. Était-ce de l'ironie ? Mes parents ne s'étaient guère donné de mal pour nous recevoir. Puis je me suis souvenu que, selon ce qu'ils m'avaient confié, les siens, qui étaient morts quelques années auparavant, avaient été des gens extrêmement distants. J'en ai conclu qu'ils avaient vraiment apprécié l'accueil tiédasse que nous avions reçu. Nous avons continué de marcher jusqu'à ce que nous atteignions le kiosque à musique où il avait dansé avec Milly. Jack m'a retenu par le bras. « Grace, me ferais-tu l'honneur de m'épouser ?» Sa question était si inattendue que ma première réaction a été de croire à une plaisanterie. Même si j'avais secrètement espéré que notre liaison aboutirait un jour à notre union, J'avais pensé que ça prendrait une ou deux années. Sentant peut-être mon hésitation, il m'a enlacée. À la minute où je t'ai vue assise dans l'herbe avec Millie, j'ai deviné que tu étais la femme de ma vie. Je ne veux pas attendre. Si j'ai souhaité faire la connaissance de tes parents, c'est parce que je tenais à ce que ton père m'accorde ta main. Je suis heureux de t'annoncer qu'il me l'a donnée avec joie. J'ai été amusée que mon père s'empresse de me pousser dans les bras d'un homme qu'il venait à peine de découvrir, dont il ignorait tout. Toutefois, alors que Jack m'étreignait, j'ai été atterrée de m'apercevoir que l'euphorie engendrée par sa demande était tempérée par une sourde anxiété. À l'instant où je comprenais qu'elle était liée à Millie, il a repris la parole. « Avant que tu me répondes, je souhaite te dire quelque chose, Grace. » Il s'exprimait avec tant de gravité que j'ai cru qu'il allait me confesser avoir une ex-femme, un enfant ou une horrible maladie. « Je veux que tu saches que, où que nous vivions, il y aura toujours une place pour Millie. »
« Oh, Jack !»
ai-je soufflé, des trémolos dans la voix.
« Tu n'imagines pas combien ça compte à mes yeux. Merci. »
« Alors, acceptes-tu ? »
« Oui, bien sûr que oui. »
Sortant une bague de sa poche, il l'a glissée à mon doigt. « Quand ? » a-t-il murmuré.
« Quand tu voudras, »
ai-je chuchoté en admirant le solitaire.
« Il est splendide, Jack. »
« Je suis content qu'il te plaise. En mars ?»
J'ai éclaté de rire. « Mars ? Mais comment veux-tu organiser un mariage dans un délai aussi court ?»«
Ce ne sera pas bien difficile. J'ai déjà un lieu en tête, Crane Lake Park, à Ecclescombe. C'est un manoir qui appartient à l'un de mes amis. Normalement, il ne le prête qu'aux membres de sa famille, mais je sais que ça ne posera aucun souci. »
« C'est génial !»
me suis-je réjoui. « La seule condition étant que tu ne souhaites pas inviter trop de monde. Il n'y a que mes parents et quelques amis. C'est entendu, alors. » Plus tard, alors qu'il me ramenait chez moi, il a exprimé le désir que nous buvions un verre ensemble le lendemain soir, car il voulait discuter de plusieurs points avec moi avant mon départ pour l'Argentine, le mercredi. « Tu n'as qu'à monter maintenant ? » ai-je tenté. « Il faut que je rentre, j'en ai bien peur. Je commence tôt demain. » Malgré moi, j'ai été déçue. Il l'a remarqué. « Je n'aimerais rien tant que t'accompagner et rester cette nuit, mais je dois relire des dossiers. »
« Je n'en reviens pas d'avoir accepté d'épouser un homme avec lequel je n'ai encore pas couché. »
ai-je grommelé. « Et si nous allions quelque part tous les deux le week-end suivant ton retour, nous emmènerons Millie déjeuner, puis nous la déposerons à l'école et nous irons visiter Crane Lake Park. » Nous trouverons un hôtel à la campagne. Ça te tente ?
Oui,
ai-je acquiescé avec reconnaissance.
Où veux-tu que je te retrouve demain soir ?
Au bar du Connaught.
En venant directement du boulot, je devrais y être vers 19h.
Super. J'ai consacré l'essentiel du lundi à supputer sur les sujets que Jack voulait aborder avec moi avant mon envol pour l'Amérique du Sud. Il ne m'a pas du tout traversé l'esprit qu'il allait me demander de démissionner et m'annoncer qu'il voulait quitter Londres. J'étais partie du principe que, une fois mariés, nous vivrions comme nous l'avions fait jusqu'à présent, la seule différence étant que nous habiterions ensemble dans son appartement, vu qu'il était plus central que ma maison de Wimbledon. Ses suggestions m'ont abasourdi. Devant mon ahurissement, il a essayé de se justifier, mettant en avant ce qui m'avait frappé la veille, à savoir que depuis 3 mois que nous nous fréquentions, nous n'avions passé que très peu de temps ensemble. « À quoi bon se marier si nous ne nous voyons jamais ? » a-t-il plaidé. « Il est impossible de continuer comme ça. D'ailleurs, je n'en ai pas envie. Il faut que ça change. Et comme j'aspire à avoir des enfants tôt ou tard... » Il s'est interrompu. « Tu en veux aussi, n'est-ce pas ?»«
Oui, Jack, bien sûr. »
ai-je opiné avec un sourire. « Ouf ! » a-t-il ri en prenant ma main dans la sienne. « Quand je t'ai vue avec Millie, j'ai su que tu serais une mère formidable. J'espère ne pas devoir patienter trop longtemps avant que tu me rendes père. » Le désir soudain de porter son bébé m'a submergée et réduite au silence. « À moins que tu préfères attendre quelques années, » a-t-il enchaîné, hésitant.
« Ce n'est pas ça, » ai-je réussi à articuler. « C'est juste que Je ne vois pas comment je vais pouvoir renoncer à mon travail, sachant que Millie est encore en pension. C'est moi qui règle ses frais de scolarité, comprends-tu? Il lui reste encore un an et demi à faire.
Il est hors de question que tu bosses 18 mois de plus,
a-t-il objecté d'un ton définitif.
Millie n'aura qu'à emménager avec nous sitôt que nous reviendrons de notre voyage de noces.
Je l'ai contemplé d'un air coupable. J'ai beau adorer Millie, ai-je chuchoté. J'apprécierais quand même beaucoup que nous vivions un peu seuls ensemble. Par ailleurs, elle est si contente de son école que ce serait dommage de l'en retirer précipitamment. J'ai réfléchi un moment. Et si nous en parlions à la direction, histoire de voir ce qu'ils en pensent?
Pas de souci. Nous poserons aussi la question à Millie. Personnellement, je serais ravie qu'elle décide de vivre avec nous tout de suite, mais si tout le monde estime qu'il vaut mieux qu'elle ne bouge pas pour l'instant, j'insiste pour payer l'école. Après tout, elle sera bientôt ma sœur.
Il a porté ma main à ses lèvres.
Promets-moi de me laisser t'aider,
a-t-il ajouté. Je l'ai regardé, dépassé. Je ne sais que dire.
Alors ne dis rien. Jure-moi seulement que tu réfléchiras à ton éventuelle démission. Je ne veux pas ne pas te voir quand nous serons mariés. Et maintenant, quel genre de maison te ferait plaisir? Il faut que tu me le dises, parce que, si tu m'y autorises, j'aimerais t'acheter celle de tes rêves comme cadeau de noces.
C'est que je ne me suis jamais penchée sur la question, ai-je avoué.
Eh bien, il est temps. C'est important. De quoi aurais-tu envie? D'un grand jardin? D'une piscine? Combien de chambres?
Oh, le grand jardin, c'est sûr. Je me fiche d'avoir une piscine. Quant aux chambres, tout dépendra du nombre d'enfants que nous aurons.
Des tas, s'est-il esclaffé. Moi, j'aimerais vivre dans le Surrey, assez près de Londres pour que les allers-retours quotidiens ne soient pas un fardeau. Qu'en penses-tu?
Du moment que tu es heureux. Et toi, quelle sorte de maison te tente?
Je voudrais qu'elle soit près d'un joli bourg, mais assez loin aussi pour que le bruit ne nous dérange pas. Comme toi, je suis pour avoir un grand jardin, si possible entouré de hauts murs pour que personne ne nous voie. Un bureau serait bien, une cave également, afin d'y ranger des affaires. C'est à peu près tout pour mes exigences.
Une chouette cuisine, ai-je ajouté. Oui, je voudrais une belle cuisine qui donne sur une terrasse où nous prendrions le petit déjeuner le matin, et une vaste cheminée dans le salon, pour des vraies flambées. Et la chambre de Millie devra être jaune.
Pourquoi ne dessinons-nous pas un plan de la maison de nos rêves?
A-t-il suggéré en tirant une feuille de sa mallette.
Ça nous donnera un bon point de départ.
Lorsqu'il m'a accompagné à un taxi 2 heures plus tard, il avait fait l'ébauche d'une demeure splendide, avec jardin paysager, terrasse, 3 pièces de réception, une cheminée, une cuisine, un bureau, 5 chambres dont une jaune pour Millie, 3 salles de bain et un petit œil de bœuf dans le toit.
Je te mets au défi de dénicher ce palais avant mon retour d'Argentine,
ai-je lancé avec un rire.
Je ferai le maximum,
a-t-il promis avant de m'embrasser. Les semaines suivantes ont défilé à toute vitesse. Quand je suis revenue d'Amérique du Sud, j'ai donné ma démission et mis ma maison en vente. J'avais méticuleusement réfléchi et j'étais arrivée à la conclusion que j'agissais comme il faut en obéissant à Jack. J'aspirais à l'épouser et la perspective d'habiter une belle maison à la campagne au printemps suivant et peut-être d'attendre notre premier bébé me remplissait d'allégresse. J'avais travaillé comme une dingue pendant 13 ans, me demandant parfois si je pourrais lever le pied un jour. Comme par ailleurs je savais que, une fois Millie chez moi, je ne serais plus en mesure de voyager autant ou d'enchaîner les longues journées qui m'incombaient parfois, j'avais nourri des angoisses quant à la nature du poste où je finirais. Tout à coup, mes inquiétudes s'envolaient, et tandis que je choisissais les cartons d'invitation à envoyer aux amis et à la famille, j'avais l'impression d'être la fille la plus chanceuse au monde.